Bienvenue à tous sur France Culture, il est midi et demi. Tout de suite le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Le Brexit aura bien lieu le 31 janvier prochain. Hier, après plus de 3 années de division et de psychodrame autour de la sortie de l'Union européenne, les électeurs britanniques ont donné au Premier ministre sortant Boris Johnson une éclatante victoire aux législatives.
En Algérie, les résultats de l'élection présidentielle, ils viennent tout juste de tomber.
Oui, avec un peu plus de 58% des suffrages exprimés, c'est Abdelmajid Tebboune, l'ancien Premier ministre du président Abdelaziz Bouteflika, qui a été élu dès le premier tour. Un scrutin qui aura surtout et d'abord été marqué par une abstention record. L'Algérie, Olivia, ce sera d'ailleurs également au menu de la grande table des idées.
Oui, avec un grand spécialiste du Maghreb contemporain, par ailleurs président du conseil d'orientation du palais de la Porte Dorée qui abrite le musée national d'histoire de l'immigration. C'est l'historien Benjamin Stora qui nous rejoindra dans la deuxième partie de la grande table entre crise, révolution et élection. Comment raconter l'Algérie d'aujourd'hui ?
En France, pour son 9e jour, la grève ne présente aucun signe d'essoufflement dans les transports. De son côté, le gouvernement tente de renouer le dialogue avec les syndicats. Enfin, l'invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes aujourd'hui, Emmanuel Wargon, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique. Avec elle, nous évoquerons notamment les discussions qui piétinent à Madrid à l'approche de la conclusion de la conférence internationale sur le climat. À une écrasante majorité, les électeurs britanniques auront donc choisi l'homme à la tignasse jaune paille, savamment ébouriffé, le bouillonnant et excentrique Boris Johnson, dit Bojo, dont le style capillaire, au moins aussi sûrement que les excès ou sa réputation de dilettante gaffeur, sont devenus la marque de fabrique à une époque où, à l'évidence, la communication compte désormais autant sinon plus que les idées. Avec environ 360 sièges sur 650, le Parti conservateur remporte sa plus forte victoire depuis plus de 30 ans. Le triomphe est total, un succès au détriment de l'effondrement du Parti travailliste qui obtient lui à l'inverse son plus mauvais score depuis 1935. Quant aux libéraux-démocrates, pourtant arrivés deuxième aux élections européennes du printemps dernier, ils peuvent oublier pour l'instant leur ambition de devenir une grande formation centriste avec seulement une douzaine de sièges. Non seulement le parti europhile ne progresse pas, mais puis encore, leur chef a été carrément évincé de la Chambre des communes. Marie-Pierre Véraud, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors hier, un slogan aura manifestement fait la différence. Get Brexit down. Boris Johnson avait d'ailleurs vidé le reste de son programme pour éviter de parasiter le message. Le Brexit aura donc bel et bien lieu, Marie-Pierre, le 31 janvier.
Oui, plus de si ni de mais, a dit Boris Johnson, acclamé par ses partisans ce matin. C'est effectivement une issue claire qui se dessine après 3 ans d'incertitude, d'hypothèses sur un second référendum, voire d'annulation du Brexit. Le Brexit sera sur les rails fin janvier 2020. La Grande-Bretagne va prendre le large. Alors, il faudra de longs mois encore pour définir les nouvelles relations entre Londres et les 27. Mais Boris Johnson l'a martelé ce matin. Cette décision de quitter l'Union est irréfutable, irrésistible et incontestable. Il a évoqué un véritable tremblement de terre qui effectivement redessine le paysage politique britannique. Boris Johnson, qui n'a pas perdu de temps ce matin, après une très courte nuit pour se rendre à Buckingham Palace et demander à la reine la permission de former un gouvernement. Il présentera vendredi prochain aux communes le projet de loi de séparation avec l'Union européenne pour une adoption avant Noël, comme il l'a promis. Et il devrait détailler un programme de gouvernement pour les 4 à 5 ans à venir. Santé, éducation, Boris Johnson a promis de ne pas trahir la confiance placée en lui. Il a en tout cas les coudées franches pour faire exactement ce qu'il veut.
Alors si la large victoire de Boris Johnson clarifie effectivement le paysage politique britannique, elle n'enlève pas moins les nombreuses difficultés auxquelles le Premier ministre Marie-Pierre doit faire face, et en particulier le cas écossais.
Et oui, le SNP, le parti nationaliste écossais, a lui aussi fait un carton en remportant 55 des 59 sièges. Et l'Écosse, souvenez-vous, avait voté largement contre le Brexit en 2016. Donc Nicola Sturgeon, la chef du gouvernement local, demande ce matin un nouveau référendum sur l'indépendance. Car Boris Johnson, dit-elle, a peut-être reçu un mandat pour faire sortir l'Angleterre de l'Union européenne. Mais il n'a absolument pas le mandat de faire sortir l'Écosse de l'Union européenne. Les Écossais n'ont en outre aucune appétence pour le Premier ministre, mais voilà, ils ont besoin de son accord pour organiser un référendum d'indépendance. Et on vient de le voir, Boris Johnson a dit que c'était hors de question et c'est lui qui a la main.
Et puis Marie-Pierre, cette victoire donc de Boris Johnson marque évidemment l'échec retentissant des opposants au Brexit, au premier rang desquels donc les travaillistes.
C'est une véritable débâcle pour Jeremy Corbyn. Le pire score, en effet, pour son parti, vous le disiez, depuis 1935. Et ils perdent des places fortes, ces travaillistes, notamment dans le nord de l'Angleterre ou les Midlands, acquises pourtant depuis toujours au Labour, mais qui avaient voté Leave en 2016. En fait, si vous regardez une carte ce matin, elle est quasiment bleue. Le Red Wall, ce mur rouge qui traversait le pays, a disparu. Il s'est effacé. Jeremy Corbyn paye sans doute son flou, bien sûr, sur l'Europe, mais aussi son manque d'ardeur pour lutter contre l'antisémitisme dans les rangs de son parti et peut-être une ligne très radicale. Mais effectivement, Thomas, les voix favorables à l'Europe ont été étouffées hier soir. Symbole le plus frappant, l'échec de la chef des libéraux-démocrates, Jo Swinson. Elle militait pour l'annulation du Brexit. Eh bien, elle a été tout simplement évincée des communes hier soir. Elle a perdu son siège et elle a donc démissionné de la tête de sa formation. Elle qui se voyait Premier ministre, elle disparaît aussi du paysage politique pour l'instant.
Merci Marie-Pierre Véraud en direct de Londres ainsi qu'à Jean-André Giannichini pour les moyens techniques. Alors on l'a dit, plus rien a priori ne s'oppose aujourd'hui au Brexit. Le Royaume-Uni quittera bien l'Union Européenne le 31 janvier prochain, promis ce matin le Premier ministre britannique. Mais la tâche n'en sera pas moins terminée car une fois le divorce acté, eh bien s'ouvrira ensuite la phase ô combien technique et complexe des négociations sur la future relation commerciale entre Londres et l'UE. Angélique Boin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante à Bruxelles. Hier, après 10 mois donc de retard sur la date initiale, mais aussi beaucoup de lassitude de part et d'autre, les responsables européens réunis en sommet ont vu dans les résultats de ces élections une clarification, en somme, susceptible de permettre l'adoption de l'accord négocié par Boris Johnson. Et c'est ainsi que les 27 doivent charger aujourd'hui l'actuel négociateur, Michel Barnier, de négocier donc cette future relation commerciale.
Oui, car ce n'est qu'une première étape de franchie, vous l'avez dit, le 31 janvier. Si cela se confirme, on entrera, rappelons-le, dans une phase de transition d'un an renouvelable, au cours de laquelle rien ou presque ne change pour les Britanniques et les Européens, mais à l'issue de laquelle il faudra bien avoir trouvé un accord sur la façon dont on commercera à l'avenir avec nos voisins. Le plus dur, en quelque sorte, reste à faire, comme l'a souligné ce matin à son arrivée au Conseil le nouveau président du Conseil européen, le Belge Charles Michel.
Et je souhaite exprimer aussi notre attente pour une ratification rapide par le Parlement britannique afin que l'on puisse démarrer dans la sérénité, tranquillement, mais avec une grande détermination, la négociation sur la phase suivante. Il sera important de veiller aux intérêts du marché intérieur, à l'intégrité du marché intérieur. Il sera aussi important de conclure un accord qui permet d'avoir une relation étroite à l'avenir avec l'Union européenne.
Une relation avec des règles du jeu équitables, hein, pour éviter que le Royaume-Uni ne devienne un concurrent économique. Pas question pour les Européens d'ouvrir leur marché si Londres ne respecte pas, par exemple, les normes sociales, environnementales ou encore fiscale de l'Union. Une négociation autrement plus complexe que celle qui a déjà fait s'arracher les cheveux de l'équipe de Michel Barnier ici et des 27 États membres depuis plus de 2 ans. Et en cas de blocage, le spectre d'une séparation brutale pourrait bien ressurgir. Les défenseurs d'un Brexit dur, hein, parmi les conservateurs britanniques, veulent définitivement couper les ponts au plus vite, mais négocier un accord commercial de cette envergure en quelques mois, c'est mission impossible, souligne une source européenne. La saga du Brexit va donc se poursuivre.
Merci Angélique Boin en direct de Bruxelles. Alors côté réaction, la très nette victoire des conservateurs aura au moins rendu les bourses mondiales euphoriques à l'ouverture. Le CAC 40 a d'emblée franchi son niveau le plus haut de l'année ce matin à Francfort. Le DAX s'approche lui de son record historique. La bourse de Milan suit également la même tendance. Et puis si la bourse de Londres a certes ouvert en repli, ralenti notamment par un bond de la livre sterling qui pénalise les multinationales, elle a très vite renoué avec la bonne humeur générale. Enfin, toujours côté réaction, Boris Johnson a été largement félicité par son fidèle soutien dont les mèches platines font aussi partie du personnage et qui, comme lui, aura surtout été porté au pouvoir par une vague populiste. J'ai nommé Donald Trump, le président américain, qui lui a promis sur Twitter un énorme nouvel accord commercial après le Brexit. Et puis, il y a un autre tweet du locataire de la Maison Blanche aura également retenu l'attention. Nous sommes très proches d'un grand accord avec la Chine. Un message encore relativement énigmatique, non seulement parce que la Maison Blanche n'a pas fait d'annonce officielle, ce qui soulève évidemment la question de savoir si les termes ont été acceptés par les deux parties. Et puis, c'est vrai que depuis plusieurs semaines, Donald Trump a pris l'habitude d'envoyer des signaux plutôt contradictoires sur ce dossier. Alors, ce qui semble acquis, c'est que les États-Unis auraient accepté de suspendre certaines taxes sur des produits chinois qui devaient s'appliquer dimanche. Faut-il y voir pour autant la fin de 19 mois d'une féroce guerre commerciale? Rien n'est moins sûr, d'autant que la Chine, Dominique André, a refusé ce matin de confirmer qu'un accord commercial partiel avec Washington était imminent.
L'annonce est faite par la porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Madame Roy répondait à une question d'un journaliste interrogé sur un accord très proche avec les États-Unis. Elle a affirmé que la Chine était décidée à résoudre ce problème, mais l'accord doit être mutuellement bénéfique, a-t-elle réaffirmé. Le temps presse pour les deux puissances confrontées à la date limite du 15 décembre qui avait été fixée pour une nouvelle vague de tarifs douaniers américains sur 160 milliards de dollars de produits fabriqués en Chine, tels que les téléphones et ordinateurs portables et les vêtements de sport. Après un an et demi d'une guerre féroce, cet accord partiel proposerait une suspension de certains tarifs sur 360 milliards de dollars de marchandises chinoises. En échange, la Chine achèterait plus de produits agricoles américains pour un montant de 50 milliards de dollars selon des sources. La semaine dernière, le ministère chinois des Finances avait annoncé que la Chine renoncerait à des droits de douane sur certaines livraisons de soja et de viande de porc importées des États-Unis. Malgré des lueurs d'espoir, cet accord en vue doit être confirmé. La guerre commerciale pénalise la croissance économique chinoise qui est tombée à 6% sur un an au troisième trimestre, son niveau le plus bas depuis 27 ans.
Alors, ce qui est sûr, c'est que l'annonce éventuelle d'un deal avec Pékin tomberait à pic pour le milliardaire républicain visé par une procédure de destitution qui devait s'accélérer avec sa mise en accusation dès la semaine prochaine. Hier, après 14 heures d'un débat encore houleux, les démocrates ont surpris en repoussant à aujourd'hui l'adoption attendue en commission de l'acte d'accusation qui marquera donc une étape décisive avant le vote historique probablement mercredi prochain sur un probable renvoi en procès pour destitution. S'il n'y avait qu'une seule leçon à retenir de la première élection présidentielle de l'ère post-Bouteflika, ce serait sans doute celle-ci. Plus de 6 Algériens sur 10 ont boudé les urnes hier. Une abstention record. Seuls 39,93% des inscrits ont voté. C'est tout simplement le taux de participation le plus faible de toutes les présidentielles pluralistes de l'histoire de l'Algérie. Et si l'on ajoute encore à cela les très nombreuses manifestations qui auront émaillé la journée d'hier, eh bien on mesure la défiance de la part d'une grande partie de la population à l'égard de ce scrutin perçu comme une manœuvre du régime pour se régénérer, en même temps que la détermination d'ailleurs des contestataires à poursuivre cette révolution pacifique jusqu'à la réalisation de l'idéal rêvé comprenait l'instauration d'une nouvelle Algérie démocratique. Toujours est-il que les résultats officiels ont donc fini par tomber ce matin et ainsi qu'ils le revendiquaient d'ailleurs dès hier soir. C'est donc Abdelmadjid Tebboune, l'ancien premier ministre de Bouteflika, qui a été élu président dès le premier tour. Les précisions de notre envoyé spécial Mathilde Dehémy.
C'est un peu un retour en grâce pour Abdelmadjid Tebboune que certains pensaient lâché par le pouvoir dans la dernière ligne droite de la campagne électorale, avec notamment l'arrestation d'un de ses proches. Abdelmadjid Tebboune est un pur produit du système dénoncé par les manifestants depuis près de 10 mois. Il a été préfet de plusieurs provinces, plusieurs fois ministre, éphémère premier ministre d'Abdelaziz Bouteflika, limogé brutalement 3 mois plus tard dans une guerre de clans. Ce qui n'a pas empêché cet homme de 74 ans de soutenir l'ancien raï pour un cinquième mandat. La route était tracée, même si le parti historique du FLN avait finalement décidé de soutenir un autre candidat au tout dernier moment. Il est donc officiellement élu avec 58% des suffrages exprimés, alors que 6 électeurs sur 10 se sont abstenus hier. Il n'y aura donc pas de second tour, ce qui aurait été une première. Le profil très apparatchik d'Abdelmadjid Tebboune ne va pas plaire du tout aux manifestants du mouvement pacifiste, le IRAK, qui demande un changement complet du système. De nouvelles grandes manifestations sont prévues comme chaque vendredi depuis 43 semaines dans les principales villes du pays.
Alors que pour la 9e journée consécutive, la grève dans les transports ne présente toujours pas de signes d'essoufflement, la question posée reste encore aujourd'hui la même. Comment sortir de l'impasse? Alors, même si on ne parle pas encore de changement de pied, on notera à tout le moins un changement de ton de la part du gouvernement. Édouard Philippe a convié les organisations syndicales et patronales pour un cycle de réunions la semaine prochaine. Ma porte est ouverte et ma main est tendue, a notamment insisté le Premier ministre. Une série de thèmes ont d'ailleurs d'ores et déjà été évoqués, la mise en place du minimum de pension, la pénibilité, la retraite progressive et l'accompagnement des transitions vers le système universel, c'est-à-dire très exactement les revendications des organisations réformistes CFDT, CFTC et UNSA, toutes favorables sur le principe à la création d'un système de retraite universel par point. Pierre Neveu, bonjour.
Bonjour.
Alors sans doute le gouvernement cherche-t-il par là à diviser à nouveau le front syndical, 24 heures à peine après l'avoir soudé, comme en témoigne l'appel lancé à une nouvelle journée de grève interprofessionnelle mardi prochain. Et puis, dans la stratégie du gouvernement apparaît aussi, et de plus en plus clairement, Pierre, la volonté de jouer les syndicats contre l'opinion.
En effet, au 9e jour de la grève, la stratégie de communication du gouvernement est claire, prendre à témoin l'opinion publique et montrer l'opposition qui existe avec, d'un côté, une France qui travaille, qui comprend la nécessité d'une réforme des retraites universelles par points, et de l'autre, une France syndicale qui bloque et paralyse l'économie. Les ministres envoyés sur le terrain de la pédagogie et de la communication ciblent à présent les syndicats de cheminots qui défendent le régime spéciaux. Sur France Info ce matin, le secrétaire d'État chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari, dénonçait la stratégie jusqu'au boutiste de la CGT cheminot.
La CGT cheminot doit assumer si elle fait grève le 24, le 25, le 26. Je dis d'abord que ce n'est pas ce que disent les autres syndicats. Je dis que le gouvernement est ouvert à la discussion. Et je dis que depuis le début, nous avons dit que nous avions vocation à ce que les régimes spéciaux intègrent le régime universel, ce que nous allons faire.
Et donc vous dites, Jean-Baptiste Djebbari, aux usagers bloqués dans les transports, vous dites c'est de la faute de la CGT.
Non, je dis que chacun doit assumer ses responsabilités en démocratie. Et que c'est trop simple de dire, ce que dit parfois la CGT cheminot, c'est la faute du gouvernement, c'est le projet du gouvernement.
La CGT cheminot qui brandit la menace d'une grève pour Noël si la réforme n'est pas retirée. Un chantage inacceptable pour la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Annoncer que l'on veut gâcher les fêtes des Français, dit-elle, est irresponsable. En quelque sorte, on peut dire que la CGT et le gouvernement rejouent le match de la réforme de la SNCF du printemps 2018. Voilà pourquoi le Premier ministre a demandé l'ouverture de négociations sur cette question de la retraite par points à la SNCF comme à la RATP. Gouvernement qui espère ainsi trouver une sortie de crise en négociant des mesures catégorielles avec les syndicats.
Merci Pierre Neveu. Alors tandis que l'exécutif multiplie les signaux envers la CFDT, la volonté de dialogue exprimée par le gouvernement pour continuer à améliorer son projet se vérifiera encore aujourd'hui au ministère de l'éducation où les syndicats enseignants seront reçus par Jean-Michel Blanquer, lequel participera également dans la soirée avec Édouard Philippe, cette fois-ci à un débat sur les retraites avec des profs à Nancy. Enfin, rappelons qu'hier, les syndicats de policiers ont, eux, suspendu leur participation au mouvement de grève après avoir obtenu des garanties de la part du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Les organisations ont notamment obtenu le maintien des avantages permettant un départ à la retraite précoce pour l'ensemble du personnel actif dans les bureaux, donc comme sur la voie publique. Un homme menaçant des policiers avec une arme blanche dans le quartier de la Défense près de Paris a été neutralisé ce matin, comprenez, tué par les policiers qui ont fait usage de leur arme administrative. Le parquet de Nanterre a été aussitôt saisi de l'affaire et précise qu'il n'y a pas d'éléments terroristes caractérisés pour le moment. Invité de la rédaction aujourd'hui, Emmanuel Wargon, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique, en direct et en duplex depuis le ministère de l'Écologie. Bonjour madame.
Bonjour.
Et à vos côtés pour vous interroger, Véronique Robérod. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Alors avant d'évoquer ensemble l'adoption d'un accord européen sur la neutralité carbone d'ici 2050, mais aussi les discussions qui piétinent à Madrid à l'approche de la conclusion de la COP25, une première question tout de même, madame Wargon, s'agissant du sujet qui occupe aujourd'hui encore toute l'actualité en France, la réforme des retraites. Cette semaine, votre gouvernement a précisé dans le détail le contenu de cette réforme. Édouard Philippe en a notamment rappelé l'objectif, la fin des régimes spéciaux. Et pourtant, on apprend que les policiers conserveront un régime dérogatoire, mais aussi que selon son âge, eh bien, on sera ou non concerné par cette réforme. De sorte, madame Wargon, qu'on se demande parfois si l'objectif reste bien toujours la mise en place d'un système universel, c'est-à-dire identique pour tous.
Ah, je vous confirme que l'objectif du gouvernement, le projet du président de la République et du Premier ministre, c'est bien un régime universel où chaque euro travaillé donne lieu à la même cotisation et cette même cotisation donne lieu à la même retraite. Et c'est vraiment la philosophie du projet. Après qu'il y ait des transitions dans le temps, c'est normal. Et je crois que c'était aussi une attente à laquelle nous avons répondu, de permettre de pouvoir se projeter, que ceux qui sont dans leur deuxième partie de carrière, finalement assez près de la retraite, aient la garantie que les règles actuelles s'appliqueront et que les autres aient le temps de rentrer dans le nouveau système. Mais c'est bien l'universalité que nous maintenons.
Question de Véronique Romerotte.
Question sur la COP25, elle se termine ce soir à Madrid. On n'attendait pas, pour être tout à fait honnête, grand-chose de cette COP25, une COP d'attente, puisque c'est l'année prochaine, année de l'entrée en vigueur de l'accord de Paris, que tout se jouera. Mais tout de même, on a vu que les gros pollueurs sont restés muets. Ça n'avance pas vraiment. Les États n'ont pas pris toujours la mesure de l'urgence climatique.
En tout cas, je crois que ce qu'on voit dans cette COP, c'est une Europe championne du monde dans la prise de conscience et dans les engagements, puisque c'est pour cette COP, d'abord que la présidente de la Commission européenne a présenté son Green Deal, et puis que le Conseil européen a annoncé l'ambition européenne pour tout le monde. Sauf la Pologne qui a encore un peu besoin de temps pour réfléchir.
Qui a refusé de signer.
Qui a refusé de signer, mais qui veut se laisser un peu plus de temps. Donc une ambition d'atteindre la neutralité carbone pour tous les pays de l'Union européenne en 2050. Donc l'Europe est au rendez-vous de cette COP. Après, on a besoin de continuer la mobilisation, notamment pour les pays qui sont les plus en première ligne sur l'émission de gaz à effet de serre. On sent que les États-Unis ne sont pas convaincus. En tout cas, le président des États-Unis n'est pas convaincu.
Une surprise, oui.
Il y a d'autres acteurs des États-Unis qui sont plus mobilisés, les États, certaines villes, etc. Et puis on a aussi besoin des acteurs économiques qui doivent se mobiliser chacun dans une trajectoire.
Effectivement, parlons de l'Europe qui veut être le premier continent neutre en carbone en 2050. Un Green Deal européen a été validé sans unanimité, vous venez de le dire. Et puis il y a eu quand même aussi un petit peu... Donc, la France était accusée aussi avec le nucléaire en mettant en avant l'industrie nucléaire de rajouter un peu à la division. Est-ce que là aussi, alors c'est pas gagné, mais est-ce qu'il fallait vraiment parler du nucléaire comme solution au réchauffement climatique?
Ce qui s'est joué à l'Europe, Elisabeth Borne l'a dit, c'est vraiment un accord historique. C'est la première fois qu'à l'échelle de l'Europe et d'un continent, on s'engage pour la neutralité carbone 2050, mais ça veut dire que ça commence aujourd'hui. Après, chaque État a la liberté, et c'est normal et c'est heureux, de trouver son propre chemin et son propre mix énergétique.
Là, la France a fait du lobbying.
En France, nous avons une électricité qui est très fortement produite à base de nucléaire, à peu près 72% aujourd'hui. Nous sommes en train de refluer progressivement. Nous allons fermer les deux premiers réacteurs, ceux de Fessenheim, l'année prochaine. Et donc notre objectif est d'atteindre en 2035 50% de nucléaire en montant progressivement pour les énergies renouvelables. Il faut laisser chaque État membre de l'Union européenne trouver son propre chemin. Certains souhaitent accroître la part du nucléaire, d'autres souhaitent la maintenir, d'autres ont décidé d'en sortir. L'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire. Mais comme elle est passée par le charbon, maintenant elle a également décidé d'arrêter le charbon d'ici 2038-2040. Il faut que chacun soit libre de son chemin avec un objectif partagé.
Pour la France, donc l'idéal, c'est de passer de l'énergie fossile au nucléaire.
Non. Pour la France, c'est d'atteindre idéalement 100% d'énergie renouvelable. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. Nous souhaitons travailler sur un scénario 100% renouvelable au-delà de 2035. Nous ne savons pas encore comment nous atteindrons la neutralité carbone complète entre 2035 et 2050, quel mix énergétique. Mais la France dit aussi que le nucléaire fait partie d'un mix énergétique décarboné.
Restons sur le nucléaire français. EDF présente aujourd'hui un plan baptisé Excel pour tenter, on va dire, de redorer un peu le blason de la filière nucléaire française, plombée, on peut dire ça, par l'EPR de Flamanville, des déconvenues en chaîne, on l'a vu depuis des années. Un coût autour de 12 milliards d'euros au lieu des 3 prévus et des 3 milliards prévus au début. Au bas mot, 13 ans de retard pour sa mise en fonctionnement. Ce plan, doté de 100 millions d'euros, va servir à quoi?
C'est sûr qu'on peut s'interroger sur les raisons qui nous ont conduits à ce décalage dans le temps tellement long de Flamanville et l'augmentation du coût. C'est d'autant plus sensible que nous avons pris l'engagement de fermer les centrales à charbon et que nous savons que nous aurons besoin d'une sécurité d'approvisionnement en 2022 quand nous fermons et qu'elle est liée aussi aux perspectives de moyen terme de Flamanville.
Il y aura quelques vieilles centrales à fermer aussi.
D'abord, nos deux objectifs, donc de fermer les deux réacteurs nucléaires de Fessenheim et de fermer les quatre dernières centrales à charbon qui produisent de l'électricité encore présentes sur le territoire français. Il faut donc pour tout ça que Flamanville, qui a été décidé, qui a été financé, qui est en cours de construction, puisse ouvrir. Je crois que c'est très important que EDF prenne la mesure de l'ampleur du chantier, mette en place un plan d'action qui n'est pas que financier d'ailleurs, hein, puisque c'est aussi un pilotage renforcé par des équipes dédiées qui vont rapporter directement au président d'EDF. C'est beaucoup une question de management, c'est beaucoup une question de compétences pour qu'on aille jusqu'à l'ouverture de Flamanville. Après se pose une question très ouverte de quelle sera notre nouvelle, quels seraient potentiellement nos nouveaux investissements ou pas dans la filière nucléaire. Et ça, c'est la capacité à reprendre la main sur Flamanville est aussi un élément important dans cette question-là.
Est-ce que j'ai le temps d'une dernière question? Peut-être pas.
Rapidement.
Très vite. Dans la série, donc réponse rapide, c'est pas facile de contenter tout le monde. On a vient d'être voté à l'Assemblée dans le cadre du projet de loi sur l'économie circulaire, la fin des emballages plastiques à l'horizon 2040. Emballages plastiques à usage unique, trop tardif pour les associations, irréaliste pour les industriels. C'est dur de contenter tout le monde, comment on fait ?
On a besoin d'une ambition. Et on a besoin d'un chemin, et je crois que c'est ce qui est fait dans cette loi économie circulaire portée par Brune Poirson. Et donc, je crois à la fois à l'ambition et au chemin.
Très bien, merci. Emmanuel Wargon, secrétaire d'État, je le rappelle, auprès de la ministre de la Transition écologique, d'avoir répondu à notre invitation en direct et en duplex depuis le ministère de l'Écologie. Merci également à Véronique Robérotte ainsi qu'à Laurent Macchietti pour les moyens techniques. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, le plus souvent très nuageux et surtout pluvieux, avec deux nouvelles dégradations. 12 départements ont été placés en vigilance orange dans le sud-ouest, en Corse, de même qu'en Savoie et en Isère. Seules quelques éclaircies pourront être présentes près de la Méditerranée. Quant aux températures, elles afficheront entre 7 et 16 degrés. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Benoît Bouscarel pour le prochain journal de la rédaction.